Vous écoutez RTL.
Tout de suite, la curiosité est un vilain défaut sur RTL. Thomas Hugues et Anaïs Bouton. Bonjour à vous deux.
Bonjour Bénédicte. Oui. Est-ce que vous connaissez la phrase de Coco Chanel ? Une femme sans parfum est une femme sans avenir.
Oh, c'est dur quand même.
Ouais, rigolez pas, Coco. Violent, hein. Alors, pour toutes les femmes et tous les hommes d'avenir, la curiosité se penche avec son grand nez sur le parfum vers 14h30.
Tout de suite, dans votre curiosité, on vous raconte le destin d'un homme de médias. Il n'aimait pas être cantonné, être mis dans une case. On vous raconte Philippe Gildas.
Thomas Hugues. Anaïs Bouton. La curiosité est un vilain défaut.
Je suis un curieux, un vrai curieux. Dans le métier de journalisme, c'est capital. Et dans la télé, ça m'a beaucoup servi parce que je regardais derrière. Et c'est vrai que j'aime bien aujourd'hui faire tous les métiers de la télé.
Sur RTL.
Un vrai curieux dans votre cabinet de curiosité. Bonjour à tous, bienvenue. Vous savez que nous sommes ouverts 24 heures sur 24, en direct à 14h évidemment sur RTL, et puis jour et nuit sur RTL.fr. Bonjour Thomas.
Bonjour Anaïs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez bien à l'écoute, jolie liaison pour démarrer. Soyez bien à l'écoute sur RTL, parce que la curiosité vous... Il y a Laurent Marcy qui est notre invité, qui est déjà mort de rire. Parce que la curiosité vous offre, écoutez bien, et c'est ça qui me fait hésiter, un voyage à Tahiti à l'occasion des 20 ans de la compagnie Air Tahiti. On vous embarque, vous pourrez partir à deux en classe Moana avec une semaine de rêve dans un hôtel 4 étoiles. C'est tout simple, il suffit d'appeler au 3210, c'est 50 centimes la minute. Ou par SMS, vous envoyez RTL au 74 900, c'est 75 centimes par SMS.
Pardon ? Vous ne voulez pas m'emmener ?
Ben, faudrait qu'on gagne déjà.
Ah oui,
bon, allez, on est parti. On vous raconte l'histoire de Philippe Gildas grâce à Laurent Marsic. Alors, on va commencer. Juste pour camper un peu le personnage, vous nous rappelez le titre de son autobiographie. C'était quelqu'un qui avait le sens de la dérision.
C'était « Comment réussir à la télévision quand on est petit breton avec de grandes oreilles ».
C'est ça. Et c'est vrai que ça le décrit pas mal. On va raconter son histoire et d'abord découvrir que Philippe Gildas ne s'appelait pas Philippe Gildas.
Philippe le Prêtre.
Philippe le Prêtre.
Ouais, son vrai nom, c'est Philippe le Prêtre.
Et il est né où, Philippe le Prêtre, donc ?
Alors, il est né à Auray, dans le Morbihan, breton. Petit-fils de gardien de phare, une mère qui voulait devenir bénédictine, un père notaire.
Oui, parce qu'il est resté catholique, je crois, tout au long de sa
vie.
Ah
oui, c'est enfance très terrienne, avec études catho, effectivement. Il est enfant de cœur, il est l'aîné de 7 garçons.
Qui ont tous des oreilles décollées.
Oui, alors il racontait une chose assez drôle, justement, dans son livre. Il disait, dans la cour de récré, on était un paquet de frères avec les oreilles décollées. Je pensais que c'était les autres qui n'étaient pas normaux. Ça donne le sens du relatif.
Il a été scout, il a été militant. Enfin, il a une jeunesse qu'on peut imaginer en Bretagne. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il arrive à Paris ?
Alors, quand il arrive à Paris, moi, il m'avait raconté ça, c'est son premier job, toute première fois. Son papa lui trouve un travail et il est concierge dans un hôtel, gardien de nuit, en fait. Il se trouve que cet hôtel est collé au studio des Buttes Chaumont. C'est là où toute la télévision française enregistre ses émissions. Et il va, à ce moment-là, croiser tous ceux qui font la télé à cette époque.
Il vous l'avait raconté, je crois, dans une interview. C'était pour quelle émission ?
C'était pour une chronique d'été sur les premiers jobs. Je demandais à des personnalités de me parler de la première fois où ils ont travaillé.
Et voilà Philippe Gildas qui raconte.
Je me suis retrouvé veilleur de nuit dans un hôtel rue Fessard, sans savoir qu'au dos de cet hôtel rue Fessard, il y avait les studios des Buttes Chaumont. Et petit à petit, j'ai vu défiler des gens, alors que je n'avais jamais vu la télé, je n'avais même pas les moyens de me payer un poste, ni de la regarder. Je voyais des gens qui manifestement... étaient des gens drôles, et jusqu'au jour où il y a eu un certain Jean-Yann, et c'est lui qui m'a fait riper complètement du professeur de latin grec. Je suis devenu journaliste parce que lui-même, Yann, ce que peu de gens savent, il a été un très très bon journaliste avant de devenir comique.
Où est-ce qu'il a pratiqué ce métier de journaliste, le tout jeune Philippe Gildas, c'est la peine prof, quoi, en quelque sorte.
La première école, et celle qu'on conseille, et pourtant il rechigne à la faire, c'est de devenir secrétaire de rédaction dans la presse écrite. Et il va notamment travailler dans plusieurs journaux. Il va être au journal Combat, où il va travailler là-bas. Il travaille aussi à la République du Centre-Ouest, etc.
À cette époque-là, il a aussi une autre votre grande amitié, quelqu'un qui va aussi beaucoup compter dans sa vie ensuite.
Alors, il parlait dans la suite de cette interview, il rencontre aussi Serge Gainsbourg, et ils vont vraiment tous les deux se lier d'amitié. Il y a une vraie admiration de la part de Gildas pour Gainsbourg, et en fait, il va le retrouver quand il arrivera, lui, Gildas, à Radio Luxembourg. Il va croiser un jour Gainsbourg, et Gainsbourg se souviendra de lui, et cette amitié va être tellement forte qu'il racontait qu'à chaque fois que les Guignols étaient menacés à Canal, il lui suffisait d'appeler Gainsbourg pour que lui fasse jouer les bons leviers
c'est
pour sauver les Guignols.
Alors vous l'avez dit, Laurent, c'est vrai que quand on évoque la carrière de Philippe Gildas, on pense surtout à nos copains de la Maison Bleue, Europe, pour ne pas les citer, mais il débute sur RTL ou l'ancêtre d'RTL, c'est ça ?
Radio Luxembourg, dans les années 60, en 60, il y arrive, et il va travailler la nuit comme assistant. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas du tout comme aujourd'hui, c'est-à-dire que les journaux commençaient très très tard le matin. Pour le premier journal, je crois, c'est 8h33, si j'ai bien vu dans les anciennes grilles.
Montrer une grille de programme de l'époque, c'est dingue, quoi.
Exactement. Et donc, Philippe Gildas, son boulot, c'est de rédiger les journaux. Il rédige pour les présentateurs à l'époque. Et il va se passer un événement un peu particulier en 1962.
Oui, racontez-nous, c'est la nuit du 31 décembre,
c'est ça ? Du 31 décembre, exactement. C'est important. Gildas, il a été appelé sous les drapeaux en 61, donc on est encore dans la guerre d'Algérie, donc il faut quand même qu'il fasse gaffe. Et il travaille au journal Combat. Et donc en 60, ce fameux 31 décembre, il se passe rien en général le 31 décembre, sauf que ce soir-là, il y a un Français qui va remporter une course mythique à l'époque, qui est une course qui, alors, au bout du monde, s'appelle la Corrida de Saint-Sylvestre. C'est une course à pied de 15 km. Et l'événement est hyper important. Sauf que le 31 décembre, toute la rédac a fêté joyeusement le 31 décembre. Et ils sont tous bien éméchés.
Tout le monde est bourré.
Et on dit à Philippe Gildas, écoute, c'est toi qui vas y aller. Et donc il traverse les couloirs de la radio pour aller à l'antenne. Il croise Jean Bardin, qui est animateur et qui présente à ce moment-là. Et il dit, je peux pas présenter avec mon vrai nom. Sinon, c'est 6 mois de plus à l'armée, mais c'est 6 mois de trou. Et puis surtout, au journal Combat, il va se faire virer. Donc, il cherche et il va prendre le prénom de son fils aîné, Gildas. Et il garde quand même son prénom, Philippe, à lui, et ça devient Philippe Gildas. Et il se dit, c'est pas grave, parce que la radio, je vais pas en faire mon métier. C'est là où il se trompe.
Et pourtant, il sera un très bon journaliste de radio. On écoutera ça dans un court instant sur RTL. Vous allez découvrir un flash et puis ce bonheur de réécouter l'antenne d'RTL d'il y a quelques décennies. Restez avec nous, la saga Philippe Gildas dans la curiosité.
Thomas Hugues. Anaïs Bouton. RTL.
Mais si vous avez dit je l'ai eu, c'est formidable. Formidable, vous avez dit, je me souviens.
C'est comme ça qu'en descendant l'escalier par force, parce que ce matin-là, 1er janvier, plus personne n'était en état d'aller lire son bulletin.
La curiosité est un vilain défaut.
Dans l'escalier, je me suis dit, je peux pas faire ça, ils vont tous m'entendre. Et j'ai donc pris le prénom de mon fils. C'est comme ça que je suis devenu Philippe Gildas.
On racontait ça à l'instant avec Laurent Marsic, le spécialiste média de la rédaction d'RTL, comment Philippe le prêtre est devenu Philippe Gildas et a commencé sa carrière à la radio, puis à la télévision. Laurent Marsic, vous avez retrouvé dans vos archives un des journaux que présentait Philippe Gildas à l'époque sur Radio Luxembourg. Écoutez bien, on est le 2 mai 1968 et pourtant c'est calme.
7h30 minutes et 45 secondes. RTL 4e, présenté par Philippe Gildas, c'est votre journal du matin.
Football, Bastia éliminé de justesse, Marseille dernière chance. Dans 8 jours, le salon de l'auto, opération parking gratuit.
C'est drôle, Laurent, parce que il y a pas de manifestation, de barricade dans ces titres à Philippe Gildas ce jour-là. Et pourtant, mai 68, ça va un impact majeur aussi dans les médias. Il faut le rappeler.
Oui, mai 68, ça va laisser des traces un peu partout dans les rédactions. Et Philippe Gildas va d'ailleurs démissionner d'RTL et il part à l'ORTF qui est en pleine mutation. 69, il s'en va.
Il choisit donc la télé, en fait.
Il choisit la télé, au sein de l'unité d'information que dirige Pierre Des groupes, et il va présenter notamment le JT, il va faire Information Première en alternance avec quelqu'un avec qui il va travailler par la suite à Europe 1, c'est Étienne Moujotte. Il fait ça sans prompteur, sans cravate, et il racontait qu'il avait gardé les cheveux longs pour cacher ses oreilles.
Oui, parce que lui, c'était pas cheveux longs, idée courte, c'était pas 68, c'était juste pour cacher ses oreilles et ses cheveux longs. Il les a gardés toute sa vie pour ça. Ouais. Alors, c'était une force de travail incroyable, c'était un gros bosseur pointilleux, Philippe Gildas, et il était capable aussi de très grande colère. c'est ce que vous avez comme, comme information.
C'est gros bosseur, ça tout le monde s'accorde à le dire. Quelqu'un d'extrêmement gentil, des colères mais qui restait pas. Tous les gens qui en parlent disent que voilà, il pouvait rentrer dans des, dans des grandes colères, mais c'était pas un rancunier. C'était plus compliqué quand il était, ce que me racontaient certains de ses anciens collègues, quand il était plutôt à la direction des programmes. Là, c'était pas simple. Mais en tout cas, ça a été quelqu'un, un vrai passeur et quelqu'un qui a vraiment porté les gens et quelqu'un de très fidèle en amitié aussi.
Et il fera en alternance pendant presque toute sa carrière de la radio et de la télévision. À la radio, est-ce qu'il apporte quelque chose? Qu'est-ce qu'il apporte, Philippe Gildas, dans la mécanique de, notamment d'une matinale radio?
Alors, en 73, Roger Gicquel l'appelle à la rescousse sur France Inter. Mmh. Et c'est là, en fait, qu'il va créer cette fameuse sorte de matinale hybride. Il va remplacer le journaliste, il va le remplacer par un journaliste, l'animateur du matin. Il va rester pendant un an à France Inter et ensuite il part à Europe 1 que Jean-Luc Lagardère vient de récupérer. C'est là qu'il va vraiment faire fleurir cette idée-là, c'est-à-dire l'idée d'avoir un anchorman qui fasse à la fois qui puisse à la fois faire de la présentation du journalisme et puis de l'animation. Il va mélanger en fait l'information et les divertissements.
Et on est dans ce qu'on retrouve ensuite en télévision aussi, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans un mauvais anglais l'infotainment, ce mélange entre information et divertissement, c'est ce qu'il fera aussi à la télé, il le crée déjà à la radio. C'est là qu'il rencontre sa femme aussi.
C'est là qu'il rencontre Marise, effectivement l'animatrice vedette de cette station qu'il va épouser en 84. Mm-hmm. Voilà, et puis
il fait venir aussi un autre grand personnage sur Europe 1 plus tard.
Coluche. Ouais. Avec qui lancera en direct là-bas les Restos du Cœur.
Alors, il va pas lâcher la télé. Hein, mais on va le retrouver dans des émissions un peu étranges. Enfin, on se dit, bon, il est journaliste, etc. Mais non, lui, il va présenter quoi? La tête et les jambes?
Avec Thierry Roland, oui, pour la partie sportive. Et puis, il va aussi faire la chasse au trésor avec Philippe de Dieuleveux sur le terrain. Il a une vie de dingue à l'époque parce qu'il travaille à la radio le matin et ensuite, il part répéter l'après-midi la tête et les jambes. Et c'est en direct le soir à 20h30. Enfin, c'est fou.
La chasse au trésor, extrait.
Tout juste en face de ce qu'on appelle le gouvernail de la Corse, en face des bouches de Bonifacio. D'ailleurs, je crois que c'est le mot important, Bonifacio. C'est là-bas que se trouve Philippe de Dieuleveux, qui va se tenir entièrement à votre disposition. Il est en ligne, il doit pouvoir nous dire exactement où il se trouve.
Eh bien, oui, je vous entends.
Ça aussi, c'est des souvenirs de téléspectateurs. Ça fait drôle de réécouter ça, Laurent Marsic. À partir de quand il va à Canal? Dans quelles conditions, dans quelles circonstances Philippe Gildas partit à Canal pour la grande aventure? C'est ce qui marque le plus aujourd'hui quand on rappelle sa carrière.
Pour l'anecdote, c'est Pierre Lescure qui l'appelle là-bas. Et ce qui est rigolo, c'est que Philippe Gildas avait fait embaucher Pierre Lescure en 65 à Radio Luxembourg. Et Pierre Lescure l'embauche à Canal+. Il va d'abord présenter une émission le midi, toujours avec le même principe d'information et de divertissement mélangé, ça s'appelle Direct Gildas. Et puis c'est seulement après qu'il va présenter cette fameuse émission qui restera culte nulle part ailleurs.
Mais il invente avec Marto Toesca un nouveau truc aussi.
Le top 50, exactement, avec lui.
C'est-à-dire qu'il met en scène le classement des top 50, alors que ça n'avait jamais eu lieu en fait.
France en tout cas. Oui,
en France.
Classement des 45 tours. On va raconter l'histoire de Nulle part ailleurs avec Jérôme Bonaldi dans un court instant sur RTL. Restez avec nous les curieux, on a encore plein de choses à vous faire découvrir sur l'histoire de Philippe Gildas. À tout de suite.
RTL.
Ce qu'il y a d'extraordinaire et qui m'a toujours fait rigoler, vraiment rigoler, c'est quand tout d'un coup, alors que les grandes chaînes méprisaient totalement Canal+, chaîne payante, il n'y avait pas de spectateurs, etc.
La curiosité est un vilain défaut.
Puis le jour où ils ont vu que ça marchait et que ça gagnait de l'argent, ils ont lancé aussitôt leurs vedettes, c'est-à-dire Drucker, De Chavannes, Ruquier, enfin bref, dans le même créneau, mais sans préparation.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Merci à vous tous, à demain.
Philippe Gildas dans la curiosité sur RTL. On a appris sa disparition ce week-end et on souhaitait lui rendre hommage et puis aussi revivre avec vous les grandes heures. On a raconté sa carrière radio et les démarrages de sa carrière radio avec Laurent Marsic. Et tout de suite, on est avec Jérôme Bonaldi au téléphone. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous pour raconter ces années nulle part ailleurs. Qu'est-ce qu'il apporte à la télé, Philippe Gildas?
Ben, une sorte de petite révolution culturelle en fait. Mais il faut se rappeler comment on était en 84. C'était il y a une éternité, c'est quasiment le paléolithique pour le PAF. À l'époque, il y a trois chaînes de télé trois petites chaînes. Ça commence à 9h le matin avec la télévision scolaire. Ça s'arrête après à la neige. Ça reprend avec midi première. Et puis en général, ça se termine vers minuit, minuit et quart, dernier quart. Il y avait encore, il y a peu de temps, à la télévision, une émission qui s'appelait Téléphilatélie. C'était une émission pour les collectionneurs de timbres. Vous voyez le genre. On part de rien. Et donc, on est arrivé, nous, en 84, dans une sorte de désert. Donc, c'était, entre guillemets, facile de changer les choses. En tout cas, il y avait un vrai besoin pour que les choses changent.
Alors, nulle part ailleurs, c'était un talk show d'un genre nouveau. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui a fait le succès de la chose?
Je crois que on est arrivé d'abord tous avec des expériences. Moi, je venais de France Inter, d'autres venaient de RTL, d'Europe, d'RMC. Des gens venaient de France Télévisions, enfin de ce qui s'appelait à l'époque France 2, France 3 et FR 3, pardon. Et on avait tous des envies. Le monsieur qui faisait le sport avait envie de changer le sport. C'était Charles Bietri. Le type qui avait la musique voulait changer la musique. Même le standard, le son, l'habillage d'antenne, c'était, ça n'existait pas le nom, le son, le terme d'habillage d'antenne. On avait tous envie de, non pas de change the world, pas de changer le monde, mais au moins d'apporter notre petite pierre. Je donne un exemple tout bête. Moi, à l'époque, j'étais journaliste, j'avais fait 9 ans à France Inter, et tout ce qui était le commerce, les marques, la grande distribution, tout ça, c'était le diable, on n'en parlait pas. Or, moi, je le dis tout le temps et je le répète depuis des années, ma culture à moi, et à moi français, je suis pas le seul. C'est Sartre, Camus, Victor Hugo, Rabelais, etc. Petit Bateau, Evian, Carambar, Solex. Et on n'avait pas le droit de citer ces marques-là.
Ouais.
Donc, pour moi, c'était formidable de pouvoir enfin parler de autre chose que de la culture, de la politique pure et dure. La vraie vie, elle est aussi dans Carambar, Petit Bateau et Solex. Voilà.
Et puis Jérôme, Philippe Gildas, il avait la capacité aussi à s'adapter aux folies de ses chroniqueurs. Il y a une anecdote, vous en souvenez forcément, c'est parce que vous étiez réputé pour des tests qui se passaient plus ou moins bien. Il y a un jour, vous devez utiliser une télécommande sans pile. Qu'est-ce qui se passe après?
Oui, mais c'est le hasard. Mais c'est une histoire,
c'était
mais c'est
un hasard assez
hasard.
Récurrent quand même. Quand on vous regardait, moi j'ai des souvenirs, non?
Oui. Ça m'a suivi après, une sorte de damnation. Enfin, en gros, l'idée était simple. À l'époque, il y avait deux râteaux différents, VHF, UHF. Enfin, en gros, oui. Les antennes qu'on avait avant ne marchaient plus. Et donc, il fallait dire aux gens qui nous regardaient, que nous étions en clair, hein, pas encrypté. Voilà, c'est très simple pour regarder le plus. Demandez à votre copain, voilà, vous, à vos amis, à vos voisins, vous prenez votre télécommande, vous appuyez sur M, et lorsque vous allez appuyer sur le bouton plus, vous allez voir, ça va passer automatiquement et vous allez avoir canal. Donc, on avait répété, il y avait gros plan, et au moment où, en gros plan sur ma main, mon doigt appuie sur la touche M, ou plus, peu importe, paf, l'électricité saute. Mais pas seulement dans l'immeuble, mais dans tout le quartier. Et tout le monde a dit, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a encore touché un truc. Mais c'était un hasard total, je vous jure. Il n'y avait même pas de pile dans la télécommande. Mais c'était le hasard. Bon. Et ça m'a poursuivi des années et des années.
Bah oui, forcément. Bon, Jérôme, on a envie d'écouter avec vous aussi le rire légendaire de Philippe Gildas, parce qu'il y avait la rigueur et le sourire. Et pour ça, on s'offre un extrait de Nulle part ailleurs avec Antoine de Caunes dans un rôle un peu particulier, vous savez, qui incarnait des personnages complètement dingues. Ce jour-là, c'était un scout, comment vous dire, un louveteau, enfin bon, il s'appelait Pine d'huître.
Bonsoir, moi c'est Ouin Ouin, mais dans ma meute, tout le monde m'appelle Pine d'huître. Rapport à mon totem, l'huître.
Son rire, il était vraiment légendaire, Jérôme, d'un mot. Hein.
Ah oui, et en plus communicatif. Il aimait qu'on rigole. Il aimait que les autres soient bons. C'est ça qui est formidable. C'était un type qui nous emmenait plus loin. Il nous disait, oui, de la rigueur, mais avec de la légèreté. C'est, soyez bon, c'est tout pour être bon. Et c'était pas un prof, c'était plutôt un papa, voyez le genre.
Ah, merci beaucoup, Jérôme. Témoignage, Jérôme. On se retrouve dans quelques instants, les curieux, avec Laurent Marsic pour parler de Philippe Gildas. Et puis, on vous dira tout sur les secrets du parfum.
RTL.
On était allé se mettre avec Nulle part ailleurs à partir de 19h, qui était une idée totalement folle.
La curiosité est un vilain défaut.
Je ne suis allé au soir que s'il me donnait les nuls.
Anaïs Bouton Thomas Hugues.
Que j'ai appelé les nuls, bêtement, parce que tout d'un coup, au troisième jour de Nulle part ailleurs, je leur passais la parole. Allez donc passer la parole à un groupe qui n'a pas de nom.
De retour dans votre curiosité sur RTL, nous sommes avec Laurent Marsic, votre voix préférée, journaliste média de RTL, pour évoquer la vie et la carrière de Philippe Gildas.
Ça va faire des jaloux dans la rédaction.
C'est pas seulement un homme de télé. Enfin, je veux dire, c'était aussi un producteur qui a eu le nez très creux, Philippe Gildas. Racontez-nous.
Avec
Laurent.
Sa société Ellipse, dont il était PDG, il a adapté d'abord Les Aventures de Babar, qu'il a produit dans le monde entier, et il va faire ce qu'il a appelé son coup du siècle. Il décide d'adapter l'ensemble des albums de Tintin. C'est un pari qui est quand même super risqué parce que c'est 400 000 dollars pour 26 minutes et 12 000 dessins. Il va faire un certain nombre d'allers-retours entre la Belgique, etc. Il va super bien négocier. Il va réussir à faire cette série qu'on voit encore à la télévision aujourd'hui. Elle est multidiffusée. Il les adapte tous, sauf deux. Il y a Tintin chez les Soviets qui trouve trop daté, et Tintin au Congo qu'il trouve trop raciste.
Ah d'accord.
Il a été récompensé d'ailleurs pour cette série,
oui,
je crois.
Oui, tout à fait. Il a reçu un 7 d'or pour la meilleure émission de jeunesse, c'était en 93.
Et il a imposé quelque chose d'autre à la radio. Racontez-nous le cadeau qu'il a laissé.
La météo, non ?
Ah, alors la météo, oui. Alors la météo, c'est en fait, il l'impose à la télévision, mais c'est fort de son expérience à RTL. Il dit de façon un peu exagérée que le matin, on pourrait tout enlever, sauf en gros la météo et les sports ou les courses.
Et, voilà. Et l'heure.
Et l'heure, exactement. Et il va importer ça, en fait, quand il va présenter le JT à l'ORTF, il importe ce principe d'avoir une météo incarnée à l'intérieur du JT. C'est pas encore la Miss Météo, oui. Mais ça viendra.
Mais c'est pas loin.
Voilà, mais c'est pas loin.
Alors, il y a un documentaire qui va être diffusé sur Canal+, ce soir avec la voix d'Antoine Decaune. Vous en avez vu une partie. Il y a une anecdote qui est à la fois émouvante et drôle sur la fin de vie de Philippe Gildas. Vous pouvez nous la raconter, Laurent ?
Merci. Alors, c'est Antoine Decaune, effectivement, qui présente ce documentaire que Canal diffuse à 19h55 ce soir. Il explique, en fait, que Philippe Gildas, quand il est entré à l'hôpital pour sa dernière ligne droite, on lui a demandé sous quel nom il fallait l'enregistrer. Il a répondu, écoutez, marquez Gildas, on va garder le prêtre pour la fin. Voilà, c'est l'humour de Philippe Gildas.
Ouais, jusqu'au dernier moment. Merci beaucoup, Laurent Marsic. C'était
Merci.
Un bonheur de vous avoir, comme d'habitude, dans le studio de la curiosité sur RTL. À très bientôt.
À bientôt.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.